écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante,
le jeudi à 8h30.
Bonjour à tous. C'est enfin le printemps, à l'heure où les jardiniers vont commencer à s'affairer dans les jardins. Nous allons parler des fruits, des variétés locales et paysannes, des fruits que l'on dit aujourd'hui oubliés. Nous allons donc prendre ce matin la direction du verger de Ventajolles à Saint-Julien-d'Arpan, en compagnie de Jackie Brard, coprésident de Verger de Lozère. Bonjour Jackie.
Bonjour, bonjour à tous.
Et de Viviane de Montaigne, chargée de mission agri-environnement au Parc National. Bonjour Viviane.
Bonjour à tous.
Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Brard, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter en quelques mots l'association Verger de Lozère ?
Oui, bah, écoutez, Verger de Lozère a commencé il y a 12 ans, hein, une association qui s'est montée dans les Cévennes, comme ça, au départ, avec quelques passionnés d'arbres fruitiers et avec la volonté d'essayer de rechercher des variétés locales et anciennes. En fait, il faut se dire que si on ne veille pas à garder ces variétés anciennes, dans quelques années, on ne mangera que des fruits issus de l'INRA qui ont un goût moyen, qui ont une belle taille, une belle forme, une belle couleur. En fait, c'est pas obligatoirement l'idéal. C'est bien aussi de retrouver les fruits de nos grands-parents.
Tout à fait.
Et surtout des fruits locaux, pardon, mais fruits locaux pour qui sont déjà adaptés à notre terroir, qui ont fait leurs preuves en Lozère. Voilà, donc c'était l'idée de départ de Verger de Lozère.
Très bien. Donc nous prenons tout de suite la direction du verger de Ventajolles, donc du verger de collection. Il a été créé par le Parc National en 1988-89. À cette époque, dont des agents ont sillonné la vallée de la Mimène, du Tarnon, le secteur de Bar-des-Cévennes, du Pompidou et de Bas-sur-Aile, en quête d'arbres fruitiers locaux afin de conserver ces variétés du terroir. Ils ont rapporté des greffons trouvés chez des habitants, mais aussi des agriculteurs. Au total, 16 variétés de pommes, 8 de poires et 7 de prunes qui ont été plantées et greffées par un pépiniériste donc dans ce verger. Donc comme c'était important, Monsieur Brard, vous l'indiquiez précédemment, donc de conserver ces variétés anciennes, c'était une bonne idée de rapporter toutes ces variétés.
Oui, c'était d'autant plus une bonne idée que là, c'était dans un territoire particulier, hein, qui avait été prospecté effectivement à l'époque. Donc c'est hyper important de garder ces variétés-là. Il faut savoir quand même qu'il existe en France 15 000 variétés de poires et 10 000 variétés de pommes. Alors ça donne une idée, on peut pas tout avoir, hein, dans les vergers conservatoires comme ça. Mais par contre, si dans chaque territoire, on arrive un petit peu à garder nos trésors fruitiers comme ça. Voilà, c'était ça l'idée de départ du verger conservatoire de Ventajolles.
Et donc, oui, comme disait aussi Jackie tout à l'heure, c'est des variétés qui sont adaptées au climat et au sol des Cévennes. Donc, dans le contexte actuel de changement climatique et tout ça, on pense que c'est des variétés qui seront aussi plus résilientes. Et puis, elles apportent aussi une diversité génétique par rapport aux variétés, aujourd'hui, aux 5 variétés de pommes qui sont utilisées traditionnellement. Elles apportent une diversité génétique qui peuvent être intéressantes pour l'adaptation et puis pour l'adaptation au changement climatique. Et à notre niveau, on parle de biodiversité cultivée. Ça fait partie de la biodiversité au même titre que les races menacées aussi d'animaux. Et c'est pour ça qu'au niveau du parc des Cévennes, c'est important de travailler sur ce sujet-là.
Donc vous le disiez, c'est important de les conserver parce que sinon à l'heure actuelle, enfin voilà, on trouve enfin au niveau national peut-être les plus répandues 4 à 5 variétés et celles-ci on n'est pas sûr qu'elles résistent au changement climatique.
Voilà, oui, parce que ces variétés nationales, en fait, on a pris les variétés les plus adaptées un petit peu à n'importe quelle condition climatique. N'importe quelle condition, ça veut dire, ben, comme toujours, hein, quand on veut faire une généralité et qu'on oublie les spécificités, eh ben, on passe à côté de quelque chose. Donc là, cette idée, en fait, d'avoir, moi, je l'élargirais même plus. Bon, on est à Ventajol, mais je l'élargirais à la Lozère en règle générale, où on se rend bien compte, par exemple, qu'on ne va pas avoir obligatoirement les mêmes variétés à Saint-Chély-d'Apcher ou dans les gorges du Tarn. C'est une spécificité de la Lozère d'avoir des microclimats, des altitudes différentes, des natures de sol complètement différentes, hein, entre les sols acides, les sols calcaires, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des vergers conservatoires pour pouvoir promouvoir ces variétés. En fait, un verger conservatoire va servir à faire des greffons. Et comme on est dans un domaine, dans le côté jardinier, un domaine qui, moi, me ravit, c'est-à-dire qu'on peut être un des rares domaines hors commerce, on peut pas pouvoir faire des bourses aux greffons, hein, où on va s'échanger des greffons, comme on peut le faire avec des graines ou avec des plantes. Voilà.
Et c'est vrai que dans le verger de Ventajol, donc on a à peu près voilà 16 variétés de pommes. Il en manque certaines, hein, on n'a pas toutes les variétés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver des pommes qui vont mûrir plus tôt, des pommes qui vont mûrir plus tard, des pommes qui vont très bien se conserver, des pommes plus à couteau. Donc par exemple, on a la bouscasse de Boissier ou la cour durable qui vont être plutôt à consommer rapidement, qui se conservera moins, mais par contre, on a la cagarla ou la giscondette ou la barbe d'âne qui sont plutôt de bonne conservation, qu'on va pouvoir garder tout l'hiver et consommer plus tard. Donc, à partir de là, on peut aussi en avoir plusieurs usages. Des usages de pommes à couteau, comme on dit. Donc, c'est les pommes qui vont se manger plutôt fraîches. Et puis, des pommes qui seront plus pour faire de la compote. Comme la bouscasse de Boissier, par exemple, qui, comme elle se conservait pas du tout, on en faisait de la compote ou des pâtes de fruits. Et puis, voilà, et des pommes... des pommes qu'on gardera tout l'hiver et qui seront meilleures même en fin d'hiver, comme la Jalei, qui sera une pomme qui sera meilleure en fin d'hiver une fois qu'elle aura bien mûri. En début d'automne, par exemple, elle sera plutôt verte et donc moins bonne. On pourra aussi en faire des jus de pommes. Voilà, il y a des usages qui sont multiples de toutes ces variétés.
Donc vous venez de citer les variétés donc qu'on connaît maintenant, mais à l'époque où elles ont été rapportées à Ventajol, est-ce qu'elles étaient connues? Certaines portent le nom du propriétaire, alors on peut trouver la poire chaptale, la pomme tinelle. À l'époque, est-ce qu'on en savait autant qu'aujourd'hui?
Alors, à l'époque, on le savait dans un mini-terroir. On va prendre par exemple l'idée de la pomme tinelle, et ça va vous montrer aussi un petit peu l'importance de bien regarder à deux fois ces variétés de pommes. La pomme tinelle était une variété qui en fait a en quelque sorte appartenu à la famille tinelle. Je m'explique, c'est que quand il y avait un mariage chez les tinelles, on offrait aux jeunes mariés des arbres greffés qui étaient tinelles, qui se sont appelés tinelles. Et en fait, en recherchant ensuite, on a trouvé que cette pomme, elle existait déjà avec un autre nom, et elle s'appelait la bleue, tout simplement parce que c'est une pomme qui est de couverture rouge carminée, et puis qui a ce qu'on appelle de la pruine sur le dessus. C'est une espèce de... ça fait un peu comme si c'était gras, hein, où on retrouve ça dans la grasse de Chirac, par exemple, qui était une pellicule qui se forme au-dessus et qui va permettre à la pomme de se conserver pendant tout l'hiver. Donc, cette pomme qu'on a appelée tinelle à Ventajol, en fait, on l'a rebaptisée autrement, dans la mesure où antérieurement, elle avait déjà un nom. Et là, ce qui a été important, c'est de voir au niveau de la pomologie, c'est-à-dire en étudiant le fruit pour essayer de retrouver la variété, on sait que c'est toujours le nom initial qui va être conservé. Hein, le premier nom qui peut être déjà depuis les années 1700, etc. Voilà un petit peu l'idée, c'est quand même non seulement de prendre les variétés locales, mais de coller vraiment à la définition des fruits pour que ces greffons soient appelés vraiment correctement.
Et juste pour continuer sur la pomme Tinelle, on pense aussi, on retrouve des variétés bleues en Suisse. Et on pense aussi qu'il y aurait eu des échanges entre protestants, des échanges de greffons, comme ça se faisait beaucoup, et qu'il y aurait peut-être une origine suisse à cette pomme. Mais aujourd'hui, rien n'est établi par rapport à ça.
Je me posais une petite interrogation. Donc avant Tajol, on a des poires, on a des prunes, beaucoup de pommes, mais alors il n'y a pas de cerisiers. Est-ce qu'on a en Cévennes des cerisiers locaux, des variétés locales?
Alors il y a quelques rares variétés locales en fait qui fonctionnent, mais vraiment c'est tout à fait marginal. Hein. Je pense qu'il y a une raison simple à ça. Quand on plantait des arbres fruitiers, qu'on avait un peu de place pour planter des arbres fruitiers, eh ben c'était quand même mieux de planter des fruits qui se conservent. Hein. Les Cévennes, c'est les châtaignes qui vont se conserver, les poires, les pommes, les prunes se conservaient aussi, même les prunes, puisqu'en fait on les faisait sécher. Hein. C'était des petites prunes qu'on faisait sécher et qu'on réhydratait l'hiver dans les tisanes pour redonner un petit peu de peps aux tisanes et puis manger quand même des fruits. Donc la cerise se conserve très très mal, donc j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas beaucoup de cerises.
D'accord.
Et juste pour rester sur les variétés, c'est vrai que d'habitude, quand on fait un verger de collection, on met les fruits à pépins ensemble, les fruits à noyaux ensemble. Et là, dans le verger de Ventajol, on a mis des pruniers. Bon, normalement, ça se fait pas trop, mais bon, on n'est pas non plus radicaux. Après, il manque aussi d'autres variétés de pommiers, d'autres variétés de poiriers qu'on pourrait compléter dans la collection de Ventajol. On pense surtout, par exemple, à la rouge de Villefort ou à la rouge de Borne, qui sont des variétés qui sont assez méritantes, qui sont assez utilisées et qui pourraient être utilisées au même titre que d'autres variétés qui sont déjà présentes dans le verger par les agriculteurs locaux, par les producteurs. Aujourd'hui, il y a une association qui vient de créer une marque qui s'appelle 100% Cévennes, le renouveau de la pomme, et qui a l'intention de relancer la production de jus de pomme à partir des variétés locales. Et on espère que le verger de Ventajol sera un support pour cette association, pour diffuser les variétés locales et que les producteurs utilisent les variétés des Cévennes pour fabriquer ce jus de pomme. Et puis on a aussi des variétés qui sont plus spécifiques à la Mimente, à la vallée du Sistre, etc., comme la Cabus et la Bouscasse de Bresse, qui sont pas présentes actuellement dans le verger et qui seraient intéressantes à rajouter, parce qu'elles sont vraiment très spécifiques à la vallée de la Mimente et le verger de Ventajol a été créé à partir de variétés de ce secteur-là, entre autres.
D'accord. Donc, il y a eu, pour connaître hein, plus précisément donc les variétés qui avaient été donc amenées au verger de Ventajol, et donc vous nous avez cité les noms de ces variétés. Donc, il y a eu tout un travail d'authentification donc qui a été réalisé en 2010 par le centre de pomologie d'Alès sur demande du parc. C'est bien ça, Viviane?
Oui, c'est un gros travail que Sabine Rosier a réalisé pendant 4 ans. 4 à 5 ans, elle a pris le temps de redéterminer toutes les variétés du verger, de revérifier. Donc ça lui a pris du temps parce qu'il fallait qu'elle vérifie que les trois arbres qui étaient plantés de la même variété étaient bien trois arbres de la même variété. Se rendre compte qu'il y avait des doublons comme la bleue et la tinelle dont on a parlé. Se rendre compte qu'il y avait des erreurs aussi, que des variétés qu'on pensait très locales, ben en fait c'était une Blenheim orange qui est une variété anglaise et qui est donc qui est pas une variété du territoire, même si elle peut être intéressante aussi. Donc on a de la chance sur le territoire d'avoir le centre de pomologie d'Alès qui est qui nous apporte beaucoup de compétences et beaucoup d'expertise à travers la personne de Sabine Rosier. Et si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu faire ce travail-là et en être ici actuellement. Avec Verger de Lozère, évidemment, qui nous accompagne vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que Jackie est là et on regrette l'absence de Sabine qui est malade aujourd'hui. On pense à elle, mais voilà.
Et du coup, ça suppose qu'il faut y aller à différentes saisons. Il faut examiner la floraison. Enfin voilà, ça se fait pas en une seule fois. Enfin, il faut aller plusieurs fois dans le verger. Il faut regarder chaque étape.
Oui, il faut absolument être présent parce que en fait, toutes les déterminations comme ça, si vous voulez, une idée pour les gens, c'est une pomme, où elle va être rouge, où elle va être jaune, c'est avec ça qu'on va la déterminer, etc. C'est complètement différent de ça. En fait, c'est la forme d'une pomme qui va commencer à nous donner une idée. Est-ce qu'elle est plus haute que large, plus large que haute? D'un côté de la pomme, il y a ce qu'on appelle l'œil, c'est-à-dire ce qui reste de la fleur, savoir si l'œil est ouvert, à demi ouvert ou fermé, les sépales qui restent, est-ce qu'ils sont longs, etc. L'œil est dans une cuvette, est-ce qu'elle est grande, large, profonde? Enfin voilà, imaginez un petit peu toutes les difficultés qu'il peut y avoir, hein, puisque si on retourne la pomme, de l'autre côté, on va avoir toutes les mêmes choses avec le pédoncule. Donc, et puis une fois qu'on va ouvrir la pomme, comment est-ce que c'est à l'intérieur? Quelles sont les formes pour les loges à pépins, etc. Donc c'est une science très compliquée, et là encore, merci à Sabine, hein, comme disait Viviane, une science très compliquée. Après, effectivement, on va pouvoir, à partir de l'arbre, donc son époque de floraison, à partir de les feuilles, hein, il faut savoir, par exemple, les feuilles de pommier sont vertes au-dessus et légèrement grises dessous, mais certaines variétés sont vertes des deux côtés, d'autres sont plus grises, plus bleues, plus... tous ces éléments-là, la forme du bois, la taille des bourgeons, tous ces éléments-là vont nous arriver à nous faire préciser de plus en plus et être beaucoup plus sûr de la variété d'un fruit. Mais en tout état de cause, c'est quand même une opération très délicate, hein, et compliquée.
Très bien. Mais je vous propose de faire une petite pause musicale et nous revenons dans un instant au verger de Ventajol et nous irons aussi à Quézac.
Il a plus de 200 ans, c'est l'ancêtre d'Ilefond, d'Ilefond. Les hommes ont bien essayé, maintes fois de le couper, le couper. Mais il a levé les bras, en criant, non, pas le droit, pas le droit. Je suis vivant comme vous, je ne peux vivre à genoux, à genoux. Racines aux pieds, les pieds dans la terre.
Un arbre debout face à l'univers.
Racines aux pieds, entre ciel et terre.
Un arbre de vie, attend et espère.
Il respire et il murmure. Il se couvre de verdure, de verdure. Il s'étire et il grandit. Donne des fleurs et des fruits, et des fruits. Il est l'ombre en plein soleil, la fraîcheur dans le désert, le désert. Il a un collier d'écorce, nourri de sève et de force, et de force. Racines aux pieds, les pieds.
pieds dans la terre.
Un arbre debout face à l'univers.
Racines aux pieds entre ciel et terre.
Un arbre de vie attend et espère.
Racines aux pieds,
les pieds dans la terre.
Un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds
entre ciel et terre.
Un arbre de vie attend et espère.
Les enfants lui font la cour, font la ronde tout autour, tout autour. Les oiseaux cachent leur nid pour protéger leurs petits, leurs petits. La pluie sème quelques grains, les caresses du matin. Et la nuit bleue s'y repose avec la lune toute rose, toute rose.
Racines aux pieds,
les pieds dans la terre.
Un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds
entre ciel et terre.
Un arbre de vie attend et espère.
Racines aux pieds,
les pieds dans la terre.
Un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds
entre ciel et terre.
Un arbre de vie attend et espère.
Racines aux pieds,
les pieds dans la terre.
Un arbre debout
face à l'univers.
Racines aux pieds
entre ciel et terre.
Un arbre de vie attend et espère.
Donc, en 2017, l'entretien du verger de Ventajol a été confié à l'association Verger de Lozère. Hein, des travaux de rénovation ont eu lieu, d'autres sont prévus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi a consisté ou en quoi consistera donc ce travail d'entretien, Monsieur Brard ?
Eh bien, écoutez, d'abord, ça a été, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est dans les années 80 que le verger a été créé. Dans un premier temps, il y avait eu un suivi pour former les arbres. Hein, ça veut dire au niveau de faire des tailles de formation. Et puis, pendant un moment, une option avait été prise sur ce verger de laisser faire, hein, ce qui peut être effectivement intéressant au niveau biodiversité, à tous ces niveaux-là. Et en fait, au bout d'un moment, les arbres sont devenus un petit peu sauvages, un petit peu embrouillés. Il y a eu des maladies qui se sont développées, il y a eu des parasites qui se sont développés. Des arbres avaient été, je prends l'exemple des pruniers, ils avaient été greffés sur ce qu'on appelle un porte-greffe franc, c'est-à-dire à grand développement. Et en fait, ça faisait de l'ombre aux autres arbres. Les poiriers ont été greffés sur des cognassiers. C'était une bonne idée pour en faire des arbres pas trop grands. Le problème, c'est que le cognassier est assez mal adapté au sol à ce niveau-là. Donc, nous, on a fait des propositions au parc pour, en fait, se dire, bon, maintenant, quel était le but ? Le but, c'était quand même de faire de la reproduction d'arbres fruitiers. Donc de former, comme je disais tout à l'heure, d'amener les arbres à faire des bois qui vont servir à faire des greffons. Et en fait, on a recentré un petit peu tout ça en se disant, bon, comment est-ce qu'on pourrait faire de façon à remettre tout ça en ordre? Et surtout, chose qui intéressait le parc, mais Viviane va nous en parler, c'est d'avoir un vrai statut de verger conservatoire pour ce verger. Hein. Ça a été une demande du parc, et en fait, eh ben, y a une espèce de cahier des charges qu'il va falloir respecter pour avoir le droit de s'appeler verger conservatoire. Hein. Au niveau national, il n'y a pas beaucoup de vergers conservatoires, surtout dans le sud, et donc le parc avait l'intention de se situer là-dedans. Peut-être Viviane, tu peux nous en dire un mot.
Oui, l'objectif d'être un verger conservateur, c'est vraiment d'avoir une reconnaissance des variétés qui sont présentes sur le verger, et pour cela, le critère principal qu'il faut respecter, c'est d'avoir 3 sujets d'une même variété, dont un sujet à un autre endroit. C'est-à-dire sur un autre verger ou dans un autre lieu. L'objectif, c'est que si jamais il y a un problème, une maladie ou quelque chose comme ça un incendie sur le verger, qu'on puisse avoir un double de la collection ailleurs pour s'assurer qu'elle soit vraiment préservée. Et l'objectif d'un verger conservatoire, c'est aussi d'être un lieu de vie et d'animation et de pouvoir diffuser des variétés qui sont reconnues aux habitants, mais aussi aux producteurs, aux agriculteurs, pour que ces variétés soient utilisées et en faire vraiment un outil de dynamique territoriale et de dynamique locale.
Très bien, je vous propose qu'on revienne sur ces deux aspects en détail ensuite. Donc je voudrais revenir à ces travaux, donc vous parliez de porte-greffe, il y a aussi peut-être aérer le verger, il est pas très bien orienté, voilà, il y a plusieurs choses à faire.
Oui, alors au niveau technique, moi c'est ma compétence, au niveau technique effectivement, il faut savoir, si on veut rentrer un petit peu dans les détails, qu'il y a une étude qui avait été faite par une élève de l'école de Tours, qui avait été stagiaire au parc, et qui avait effectivement fait une étude très intéressante sur ramener quelqu'un d'extérieur comme ça, mais qui s'est rendu compte qu'effectivement, mais ça on l'avait déjà dit, mais que la lumière ne rentrait pas assez dans ce verger. Donc ce verger est entouré de grands châtaigniers. L'idée, ça va être d'en supprimer une partie. Ces arbres, comme je vous disais, qui avaient poussé de façon tout à fait libre, on a essayé de leur faire une taille de formation. Une taille de formation, ça veut dire que, en fait, un arbre fruitier comme ça, puisqu'on l'a mis dans un endroit restreint, il faut dire qu'on a 5 mètres entre chaque arbre, donc c'est quand même assez restreint comme endroit, et bien il va falloir le tailler de façon à lui donner la forme adéquate. Donc on va tailler les branches qui sont à l'intérieur, comme par exemple les pommiers, sont des arbres fruitiers à pépins, on va pouvoir faire de la taille de fructification aussi dedans. On avait 3 éléments, donc 3 arbres par variété. Bon, certains étaient morts ou abîmés. On s'est dit, sur chaque variété, il n'y aura plus que 2 arbres à Vantajol et donc un arbre dans un autre verger conservatoire par variété, ce qui va nous permettre aussi, comme en parlait tout à l'heure Viviane, de rajouter quelques variétés locales assez typiques et intéressantes par leur spécificité, voir si c'est du jus de pomme, si c'est de la pomme au couteau ou de la pomme à compote.
Viviane, peut-être d'autres choses par rapport à ces travaux, sur les gros travaux ?
Oui, du coup, c'est sûr qu'on a prévu des travaux un peu importants au niveau du parc. En tout cas, il y aurait à faire des travaux. On espère qu'on pourra les réaliser. Il y a tous les châtaigniers qui sont autour du verger. On a prévu d'éclaircir un peu cette châtaigneraie pour ramener de la lumière et ramener de l'air sur cette petite clairière qui est présente au milieu d'une forêt de châtaigniers. Il y a des travaux aussi de rénovation de la clôture, de restauration d'un muret qui est en bordure du verger. Et puis la création d'une haie pour planter les fruitiers. Parce que traditionnellement, les fruitiers étaient menés plutôt en arbustes, en haies. Et on aimerait aussi créer un cheminement à l'intérieur du verger pour le grand public et puis pour quand on organise des animations avec les scolaires, avec les collégiens, avec le grand public pour avoir un cheminement un peu mieux tracé dans le verger et permettre des explications. Voilà. Donc il y a un volet pédagogique aussi qu'on aimerait amener dans ce verger pour... aujourd'hui, il y a déjà des animations qui sont réalisées avec Verger de Lozère, mais voilà, on aimerait que ce lieu soit plus accueillant pour le public.
Oui, c'est un des objectifs d'en faire un lieu de vie. Donc vous parliez de bourses de greffons, il y a des animations, il y a même les pommes sont collectées aussi actuellement.
Oui, actuellement les pommes sont collectées par les parents de la crèche avec l'association Quoi de Neuf, qui est l'association d'insertion de Florac, pour en faire des compotes pour les enfants de la crèche et puis aussi pour les bénéficiaires de l'association Quoi de Neuf. En fait, les pommes sont ramassées, puis elles sont transformées dans un atelier aux normes, à l'atelier agroalimentaire de Florac. Donc tout est fait comme il faut pour la collectivité, et ça permet de donner vie à ces pommes.
On va se promener en forêt, donc on pourrait très bien se promener dans un verger. Hein, quand on y va au bon moment, ça peut être magnifique, un verger en fleurs.
Oui, et puis surtout, il y a aussi un autre aspect dont on parle beaucoup actuellement, c'est la biodiversité. Et donc l'idée, c'est quand même bien d'accueillir la biodiversité de différentes manières, hein. Déjà en n'utilisant aucun produit chimique de traitement, peut-être essayer de disposer aussi une mare à cet endroit, et justement dans les animations, c'est très important, très intéressant de voir des petites bestioles, hein, comme on dit, avec les enfants, et leur expliquer à quoi ça sert, les abeilles, la pollinisation, mais aussi d'autres animaux qu'on peut rencontrer comme ça. À partir du moment où on ouvre un endroit à la biodiversité, on se rend compte que la nature reprend vite ses droits. Et je pense aussi à ça avec la façon d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut traiter un verger. Alors traiter, attention, hein, on s'entend sur le mot, c'est-à-dire se dire comment est-ce que je vais, en faisant appel à la biodiversité, comment je vais essayer de me passer de produits chimiques comme ça, hein. Exemple, hein, les vers dans les pommes, comment est-ce qu'on va faire pourquoi est-ce qu'il y a des vers dans les pommes? Donc on va essayer de comprendre la biologie de ce petit ver qui est dans les pommes, qui en fait est la larve d'un petit papillon nocturne. Donc vous voyez, genre de truc, se dire, eh ben, s'il y a plus de chauves-souris qui, elles, mangent les papillons nocturnes, eh ben, peut-être que je vais traiter de cette manière-là. Voilà. On peut traiter sans mettre de produits chimiques et en s'appuyant sur la biodiversité qu'on a au niveau du verger, par exemple.
Très bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Viviane, et vous aussi, Jackie, donc l'objectif est de faire de Ventajol un verger conservatoire, donc par l'obtention d'un label. Pour cela, la collection doit être dupliquée. Donc, elle sera dupliquée dans deux lieux différents. Donc, Viviane.
Oui, actuellement, on est en train de discuter. Enfin, non, on a discuté avec Quézac. En fait, la commune de Quézac a un projet de réaliser un verger au centre du village, dans un ancien pré, pour en faire un espace de vie pour les habitants de la commune. Donc, on va planter une partie des collections de Ventajol dans ce verger-là. Et puis, il y aura une autre partie aussi sur le verger de l'Espinasse. Sur la commune de Ventalon en Cévennes, on va répartir. Et sachant qu'après, par exemple sur Quézac, l'idée, c'est aussi de compléter avec les variétés locales qui sont autour de Quézac, donc qui sont plus spécifiques aux gorges du Tarn, comme la poire d'Iva qui a été retrouvée à côté de la source de l'eau de Quézac, par exemple. Ou l'abricot d'Ispagnac, voilà, c'est les gorges du Tarn présentent aussi d'autres variétés et même d'autres espèces fruitières.
Donc la liste doit encore être établie.
Voilà, c'est ça.
L'association Verger de Lozère est aussi partie prenante, hein, dans ce projet, puisqu'il y a une convention qui a été signée avec la commune, l'association et le parc. Donc vous aurez quel rôle dans ce projet, Monsieur Brard?
Eh bien, nous, on a un rôle de conseil, hein, comme je disais tout à l'heure, sur toute la partie technique, c'est-à-dire que les plans ont été faits par un architecte paysagiste, donc pour toute la partie ludique, et on a un coin qu'on a réservé pour planter 35 arbres déjà de plein vent. Et donc là, on apporte notre compétence, c'est-à-dire que déjà, on a fait l'implantation, on a fait le piquetage, on a vu avec les employés communaux comment il fallait faire les trous, qu'est-ce qu'on mettait dans ces trous, quel type de tuteur on pouvait mettre aux arbres. On a déjà le terrain a déjà été préparé. Alors ça, c'est quelque chose de rare, hein. Moi, par métier, j'étais justement jardinier paysager. paysagiste, et il est très rare, et c'est à souligner, de voir que on fait une chose comme ça en ayant le temps. C'est-à-dire que on a pu faire les trous comme on le préconise, nous, un an à l'avance, qu'on a rebouché pour que le foisonnement des terres fasse que nos arbres ne descendent pas après. On a vu avec la commune qu'il fasse une commande de justement ces variétés fruitières. On a fourni des greffons au pépiniériste qui va s'occuper de ça. Enfin, on fait vraiment un travail dans le bon sens. L'idée aussi, dans cette convention qu'on a signée, c'est d'essayer de former les employés communaux, voire les élus, voire des gens de la population de Quézac, à essayer d'entretenir ce jardin. Et donc, il y aura des stages de formation pour les gens volontaires comme ça, qui seront organisés par Verger de Lozère, taille de formation, taille de fructification, explication sur les arrosages, sur les paillages, sur justement observation des maladies ou des petites bêtes qui pourraient venir. Donc vraiment un rôle d'accompagnement, en fait, pour que ce verger soit fait au mieux. Il faut vraiment souligner l'intelligence, je dirais, de des membres de la commune là qui font confiance et qui mettent tout en œuvre pour que ce soit vraiment une réalisation modèle quelque part.
Et justement, donc actuellement, quel genre de travaux on effectue dans les vergers ?
Alors même à cette époque-ci, maintenant on a un petit peu fini, hein, on a un petit peu fini la taille, en fait. Il va y avoir un grand travail d'observation, parce que dans les vergers, en fait, il faut savoir que les tailles, pour reprendre ça, on a deux grandes catégories de temps. Les arbres à noyaux, on va les tailler à l'automne, sauf les cerisiers qu'on va tailler au moment de la récolte des fruits. Et par contre, les arbres à pépins, hein, on parlait beaucoup des pommiers, mais il n'y a pas que ça. Ben, les arbres à pépins, pendant tout le temps où on n'a pas les feuilles, on va pouvoir les tailler. Maintenant, il va falloir attendre, observer un petit peu comment ça va se passer, noter les dates de floraison. Ça, pour des gens qui ont des arbres fruitiers, c'est toujours intéressant. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un climat différent au nord et au sud, mais si on sait par exemple qu'un pommier reine des rainettes a fleuri à tel jour, on va pouvoir, si on a un autre pommier qui fleurit 3 semaines après, eh ben, ça nous fait une base de référence, si vous voulez, hein. Ça va être l'espace avec l'espace-temps avec des espèces qu'on connaît bien comme ça, des variétés qu'on connaît bien. Donc, et ensuite, une fois que la noison des fruits va être faite, il faudra aussi retirer quelques fruits pour que en fait l'arbre ne s'épuise pas à nourrir trop de fruits. Toujours, moi j'insiste sur le fait de l'observation, et l'observation est aussi importante que le travail, parce que qu'est-ce que je vais avoir comme bête qui va venir, tiens, j'ai des bourgeons qui sont mangés, c'est à cause de quoi, c'est à cause de quelle bête. Des fois on le voit pas le jour, et ben il faut y aller la nuit avec une lampe de poche pour voir quelle est l'origine. On ne traite surtout pas si on n'a pas défini la cause d'une maladie ou d'une infestation d'insectes ou d'autres bestioles comme ça.
Et donc voilà, il y a des remèdes naturels.
Pardon ?
Il y a des remèdes naturels pour les traiter.
Voilà, il y a des remèdes naturels, hein, toutes les décoctions de plantes qu'on appelle à tort purin, hein, moi je préfère dire décoction ou extrait de plantes, parce que purin, il y a une connotation négative, mais les plantes peuvent nous aider aussi. Dans la liste des conseils, on sait aussi que si on plante au pied des arbres fruitiers des plantes condimentaires qui sentent un peu fort, eh bien on va avoir moins d'insectes parasites parasites qui vont venir, parce que ils vont pas sentir, si vous voulez, par exemple, l'odeur du pommier, alors qu'ils vont, ils vont sentir l'odeur de la lavande ou autre qui est en dessous. Ça va contrarier un petit peu. Et en fait, tous ces insectes qui viennent pondre et qui après, nous, on trouve que, bah oui, les vers, c'est désagréable dans les fruits, mais il a fallu qu'ils viennent pondre. Et comment est-ce qu'ils vont repérer un arbre comme ça, ou une plante, hein, aussi bien des vers dans mes carottes, et ben c'est à l'odeur. Et donc si on contrarie ces odeurs en mélangeant des espèces ou en apportant des plantes qui vont contrarier ces odeurs, et ben on aura moins de vers. En fait, c'est toute l'explication des alternatives aux pesticides.
Très bien.
Il y en a. On en apprend encore tous les jours.
Dernière question, y a-t-il d'autres vergers conservatoires dans les Cévennes ?
Alors, vergers conservatoires, non, parce que déjà, comme on le disait tout à l'heure, employons les bons mots, donc vergers conservatoires, il faut absolument avoir suivi une charte. Par contre, il y a ce qu'on appelle, nous, des vergers de sauvegarde, c'est-à-dire qu'effectivement, même pour l'association, hein, déjà, on a une dizaine de vergers de sauvegarde. Moi-même, j'en possède un comme ça, où tous les arbres sont répertoriés, où on sait exactement. C'est ce qu'on appelle un verger éclaté. Hein. Donc, on a, au niveau de l'association, on a un recensement de tous ces arbres, de toutes ces variétés, où est-ce qu'ils sont par rapport au sol, par rapport à l'altitude, comme je vous disais en début d'émission, pour en fait pouvoir fournir des greffons issus de ces arbres-là à des gens qui vont peut-être les cultiver à peu près dans les mêmes conditions météorologiques ou de biotopes, et donc en fait avoir une bien meilleure réussite que sur des arbres qu'on va avoir achetés dans le commerce et où on ne sait pas d'où ils viennent. Hein. Il faut savoir que on est aussi responsables les uns les autres. On va toujours essayer d'acheter au moins cher. Ben, si on va acheter un arbre au moins cher, c'est un arbre qui va avoir poussé très vite. Et donc, par exemple, et ça se fait beaucoup dans la région de Montauban, par exemple, mais c'est une région qui est très propice, très douce au niveau du climat. Et si j'achète ça, alors l'horreur, c'est dans un supermarché. Pour le ramener dans mon terrain qui va être à 800 mètres d'altitude, eh ben, je suis sûr que ça va pas marché. Donc moi j'incite les gens à aller chez des pépiniéristes, des vrais, hein, prendre des conseils. À ce propos, je peux faire un petit peu de pub pour Verger de Lozère. On a un site qui est très bien informé comme ça sur les justement sur les variétés, etc., avec des fiches sur les fruits. Et c'est tout simplement vergerdelozere.net. Si vous allez sur vergerdelozere.net, vous allez trouver aussi des conseils et un moyen de rentrer en communication.
C'est noté, Monsieur Brard.
Voilà. Et au niveau des autres vergers de collection, au niveau du parc, on a un verger de châtaignier sur Homesas où il y a des variétés plutôt du bassin méditerranéen de châtaignier. Et pareil, qui a été complètement re-répertorié par le centre de pomologie, par Sabine Rosier. On a un verger de cognassier aussi, de porte-greffe du pourtour méditerranéen au Crosbas, sur la commune de Cassagnas. Mais alors là, il s'agit d'un double d'une collection de l'INRA d'Angers qui nous avait demandé à l'époque, donc pareil à la fin des années 80, d'héberger ce doublon de collection. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif sur ce verger, si ce n'est qu'il est ramassé par l'agricultrice qui est en convention avec le parc sur ce terrain. Et puis après, on a aussi d'autres vergers présents sur le territoire, donc qui ne sont pas propriétés du parc national des Cévennes cette fois, mais on a un verger de mûrier, par exemple, sur la commune de Peyremal, donc qui récolte voilà, les variétés de mûrier. Donc un peu plus loin des Cévennes, sur Vézénobre, il y a un verger de fruitiers, de figuiers. Et il faut savoir que le verger de figuiers et le verger de mûriers sont des doublons des collections nationales de porquerolles qui sont sur le parc national de Porquerolles. Voilà, et qui sont des doublons et qui permettent de préserver ces vergers conservatoires.
On peut rajouter aussi, si vous le permettez, des amis quand même, hein, donc oui. qui sont aussi Lozère ou limite, comme par exemple une association qui s'était créée, la Rouge de Borne. Qui a un beau verger conservatoire. Ça a été fait par quelques passionnés et là ils sont en train d'essayer il y a quelques années, et là ils sont en train de relancer. Mais en fait c'est un verger de sauvegarde où les arbres sont bien répertoriés. On parlait donc de l'association aussi 100% Cévennes là qui ont aussi des variétés comme ça. On a une association amie qui s'appelle Terre Arboricole Cévenol, et donc qui eux aussi ont des vergers de sauvegarde comme ça, avec, si vous voulez, l'action c'est que tout ça s'est répertorié, c'est ça qui est intéressant, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à essayer d'aller voir ça sur internet, et puis il y a une association aussi qui s'appelle L'Œil Dormant, qui est dans les Cévennes ardéchoises et qui fait un petit peu le même boulot que ça. On est là, c'est rien que pour notre région, mais partout en France, hein, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont attentives au fait qu'on puisse garder nos variétés locales comme ça.
Et c'est vrai que toutes ces associations que vient de citer Jackie contribuent à la sauvegarde de ces variétés et créent une dynamique sur le territoire autour de cette thématique et favorisent la diffusion de greffons, la préservation de ces variétés, etc. Donc c'est très très important pour le territoire d'avoir cette dynamique-là.
Et bien sûr, une dynamique bénévole qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Et donc voilà, tout va vers le haut, quoi. Ça c'est important.
Très bien, moi je vous propose de conclure cette émission sur ces mots. Et puis je vous remercie, Monsieur Brard, Viviane, et je vous
merci.
Dis à bientôt.
Ben, c'était un plaisir, merci.
Merci, à bientôt.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.